Merci d'écouter France Inter, il est tout juste 8h. Les tops ou les bips sont en panne ce matin, mais je vous jure qu'il est pile 8h à la pendule de France Inter. Voici le journal de Mickaël Thébault. Bonjour Mickaël.
Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et un mercredi haut en couleur aujourd'hui. D'abord noir dans les transports, grève à la SNCF, très suivi, plus mobilisation des chauffeurs de taxi. Opération escargot un peu partout, gros bouchons déjà en vue. On fera un point complet dès le début de ce journal. Bouygues Télécom, lui, est dans le rouge. CCE très tendu cet après-midi au siège. Sans doute l'annonce de 1000 à 2000 suppressions de postes. À l'UMP, au contraire, les signaux repassent au vert. Compromis trouvé hier soir. 4 hommes provisoirement à la tête du parti avec la nomination de Luc Chatel, secrétaire général de l'UMP. On en parle justement avec l'un des acteurs de ce quatuor, votre invité Patrick, en direct à 8h20.
Quatuor ou triumvirat, on lui demandera. Alain Juppé, le maire de Bordeaux, qui reprend donc du service pour cette période de transition à l'UMP jusqu'au congrès en novembre et l'élection d'un nouveau président. Alain Juppé avec nous jusqu'à 9h05 et vos questions 01 45 24 7000.
Dans ce journal encore, l'inquiétude en Irak. Mossoul, la deuxième ville du pays, et ce matin entre les mains de centaines de djihadistes. Enfin le bleu, l'équipe de France de football, à J-4 de son premier match dimanche face au Honduras. Mondial qui s'ouvre, on y est, demain soir par Brésil-Croatie.
France Inter.
C'est donc parti pour au moins 24 heures de grosses perturbations à la SNCF et sur les routes. On s'attendait à une journée de galère, et bien on y est. À la SNCF, comme prévu, la grève contre la réforme ferroviaire a débuté à 19h hier soir jusqu'à 8h demain matin au mieux, car le mouvement est reconductible et d'ores et déjà très suivi. 46% des cheminots sont en grève selon la direction, mais jusqu'à 70% sur certaines lignes, disent les syndicats. Deux régions particulièrement touchées, l'Île-de-France et la région PACA. On file d'abord à Marseille. Bonjour Isabelle Dore.
Bonjour.
Alors quasiment pas de train et les taxis qui se rassemblent.
Oui, alors ça, on en parlera ensuite, mais pour l'instant, dans la gare, où il commence à y avoir du monde dans le hall, pas d'énervement, mais de la résignation et de l'incompréhension. Si beaucoup de voyageurs ont différé leur départ, comme l'a conseillé la SNCF, ceux qui sont là n'ont pas vraiment pu faire autrement, puis il y a les étrangers qui ne savaient pas. Et enfin, ce qui gêne énormément les usagers, c'est que sur les tableaux d'affichage, c'est incroyable, ne figurent que les trains en partance. Les trains supprimés, eux, ne sont carrément pas indiqués, comme s'ils n'avaient jamais existé. On a donc l'impression qu'il n'y a pas de grève en regardant ces tableaux. Seule solution pour ceux qui ne voient pas leur train, demander aux agents d'assistance qui donnent une solution ou pas. Et cette solution éventuelle passe par l'attente d'un autre train, s'il y en a, ou par les cartes de substitution. Mais c'est quand même la première fois que les trains supprimés ne sont pas affichés. Et donc, il est impossible de dire s'il y a effectivement beaucoup de trains supprimés ou de confirmer les chiffres que vous donniez. Quant aux taxis, ils ont décidé de bloquer 3 points névralgiques, l'aéroport, la gare TGV d'Aix-en-Provence et puis la gare Saint-Charles, où je me trouve. Mais ici, pour l'instant, ils ne sont qu'une petite vingtaine sur le dépôt de minutes. C'est une vraie débâcle. Si leur nombre ne grossit pas, ils vont annuler l'opération escargot prévue sur l'autoroute et ils ne paralyseront même pas le quartier comme le craignaient les Marseillais. Les chauffeurs qui sont là sont très très déçus d'être si peu nombreux. Marseille, Isabelle Dore, France Inter.
Merci Isabelle. À l'échelle nationale maintenant, le trafic est à peu près conforme aux prévisions. Un TGV sur deux sur les lignes nord et est, 1/3 seulement pour les TGV Atlantique et Sud-Est. Pas mieux en région ou en moyenne, on a vu que c'était pire hein, en région PACA. Un TER sur 3 circule en ce moment même, idem pour les Transiliens. L'Île-de-France justement, Marion Lou, vous êtes en direct de la gare de Lyon à Paris, alors ça donne quoi ?
La gare de Lyon, c'est une des gares très touchées hein, par ce mouvement de grève. Les quais du RER D sont noirs de monde, jusqu'à une heure d'attente pour ces voyageurs qui souvent se rendent au travail. Grande ligne perturbée aussi, vous le disiez, un TGV sur 3. Jean-Pierre, en chemisette, cherche un parcours alternatif pour ne pas rater complètement son départ en vacances.
Il n'y aura pas de TER entre Valence et entre Lyon, Montélimar et Valence.
Voilà. C'est un peu la pagaille. Nous, on va à Montélimar et notre train est supprimé. Une fois qu'on sera arrivé à destination, nous savons qu'il n'y aura pas de correspondance pour Montélimar. Surtout qu'en plus, cette grève se double d'une grève des taxis. Et on est dans la paralysie totale.
Et quand on demande à Jean-Pierre le pourquoi de la grève, pas d'explication. À cause des conditions de travail, risque-t-il. Fabrice Desplanches, délégué CGT à la gare de Lyon, se désole que la plupart des voyageurs ne s'intéressent pas à cette réforme ferroviaire.
L'usager est pris en otage tous les jours. Tous les jours, ils sont pris en otage. Pourquoi la ligne D, par exemple, tous les jours, il y a des retards? Parce que voilà, on n'investit plus sur cette ligne, on n'a pas investi au départ, le matériel est vieillissant, si la réforme passe dans l'état, on ne parlera plus de ça, parce qu'on sera sur des questions mercantiles. L'usager subira encore plus ces choses, comme il subit déjà aujourd'hui.
Fabrice. Et les cheminots de la gare de Lyon en assemblée générale dès 10h tout à l'heure. Ils décideront si oui ou non la grève continue, mais a priori, dit le syndicaliste, pas de suspense, ça sera oui.
Marion Lou, en direct de la gare de Lyon à Paris, assistée à la technique de Gilles Gallinaro. Les taxis maintenant, c'est donc une journée européenne de grève et de manif, toujours contre la concurrence déloyale, selon eux, des VTC, les voitures de tourisme avec chauffeur. Que leur reproche-t-il exactement ? Explication avec Mohamed Lagoun, artisan taxi parisien depuis 12 ans.
Ils font du taxi déguisé et ils n'ont pas les mêmes charges, les mêmes contraintes qu'on a, nous, taxis parisiens, quoi. Je vous donne un exemple. Le matin, j'étais à Roissy, au terminal 1 exactement. J'arrive à 10h, le monde est blindé. J'ai attendu 2h pour charger un client. Sur 11 heures de boulot, c'est 2 heures où je ne travaille pas. Pendant ce temps-là, on voit leur manège. Ils sont en bande, ils sont sur les terminaux, ils sont à la gare du Nord. La dernière fois, il y a une cliente, elle m'a raconté gare du Nord, gare Bercy. Elle l'a prise à 45 euros. C'est un trajet qui coûte entre 25 et 30 euros. Ça veut dire 5 euros de gasoil et 40 euros dans sa poche. Même pas le fisc, même pas l'État. Ils perçoivent rien qu'on mette des règles strictes.
Voilà, et en région parisienne, les taxis vont donc partir des aéroports de Roissy et Orly en principe vers 9h pour converger place Joffre dans Paris. Autant dire que les autoroutes A1 et A6 sont absolument à éviter. Le CRIR dit même à l'instant que la bretelle d'accès au périphérique parisien est actuellement fermée depuis l'A1.
La politique à présent à 8h06, l'UMP a trouvé une solution de compromis hier soir.
Le parti est sauvé, s'est même exclamé Jean-Pierre Raffarin à l'issue de ce bureau politique tout de même tendu. Alors cette solution adoptée à l'unanimité, la voici. Du trio Juppé, Fillon, Raffarin, on passe à un quatuor avec Luc Chatel nommé secrétaire général de l'UMP. La paix retrouvée au moins jusqu'au congrès d'octobre. Luc Chatel.
C'est une nouvelle ère qui s'ouvre, qui va être basée sur l'apaisement. Nous avons besoin d'apaisement pour organiser un congrès qui se fasse en toute transparence et que les militants puissent choisir leurs dirigeants de l'UMP à l'automne prochain. Je crois que c'est une solution d'équilibre avec un trio d'anciens premiers ministres qui m'ont demandé d'être secrétaire général et donc de gérer au quotidien le parti dans le cadre de cet intérim. Il y a eu des discussions franches et viriles, mais c'est normal. Nous sommes là pour parler, pour échanger. Ce que je retiens, c'est l'unanimité, un point d'arrivée qui permet un sursaut salutaire à l'UMP. Beaucoup avaient enterré l'UMP. Nous-mêmes, nous étions inquiets de par cette réunion parce que nous voyons bien les tensions. Je crois que la solution qui a consisté à la fois à allier une solution politique à une solution juridique a été la meilleure et nous en sortons par cet accord global.
Voilà, Luc Chatel au micro de Karine Bécard et on en reparle donc évidemment dans 13 minutes précises avec Alain Juppé. La politique encore et rien ne va plus chez les Le Pen, père et fille ne se parleraient plus du tout. Après la petite phrase du patriarche sur la fournée, dénoncée par Marine Le Pen comme une faute politique, eh bien la présidente du Front National va plus loin en arrêtant le blog hebdomadaire de papa sur le site du FN. Jean-Marie Le Pen s'est dit très blessé hier soir.
Il est 8h08, à présent le comité central d'entreprise, oui.
Très tendu, on parle de Bouygues,
Bouygues Télécom.
Tendu cet après-midi. L'opérateur va dévoiler son nouveau plan stratégique pour tenter de se relancer face à la concurrence de Free. Et après sa tentative ratée de rachat de SFR, et il y a urgence, au premier trimestre 2014, Bouygues Télécom a encore vu son chiffre d'affaires chuter de 5%. Les salariés s'attendent donc à un plan offensif avec sans doute 1000 à 2000 postes supprimés. Manuel Ruffès, bonjour.
Bonjour.
Alors disons-le tout de suite, Manuel, Bouygues Télécom n'est pas au bord du dépôt de bilan.
Non, on est loin de ça. Simplement, Bouygues Télécom n'est pas rentable. 2012, arrivée de Free qui casse le marché, Bouygues Télécom perd 200 000 abonnés. Le groupe mise sur la 4G, le très haut débit, il vient d'être détrôné par Orange. Et puis, il y a eu l'épisode SFR à vendre, c'est Numéricable qui remporte la mise. Dans un domaine où il faut tout le temps investir, investir beaucoup, dans la 4G pour le mobile, dans la fibre pour le fixe, Bouygues Télécom doit se réinventer.
Et pour cela, Manuel, il faut donc adopter une nouvelle stratégie.
Une stratégie qui permettrait de gagner des clients. On en connaît déjà les grandes lignes. Il s'agirait pour Bouygues Télécom de poursuivre son offensive dans la téléphonie fixe. Décryptage avec Alexandre Yatrides, analyste financier chez Odo Securities.
Bouygues Télécom est assez fort dans les mobiles, mais ils sont trop petits dans le fixe. Free avait le problème inverse, ils n'étaient pas du tout dans les mobiles alors qu'ils avaient une position assez enviable dans le fixe. Ça leur a permis finalement à Free d'être très agressif dans les mobiles et donc de gagner très vite des clients en cassant les prix. Bouygues Télécom pourrait de son côté être très agressif dans le fixe et ainsi gagner cette fameuse taille qui lui permettrait d'être rentable de façon satisfaisante.
Et ce sont les salariés manuels qui devraient en payer le prix.
Ce nouveau plan stratégique, qui pourrait prévoir également une réduction très conséquente des offres, devrait entraîner des suppressions de postes, départs volontaires ou licenciements. Et ça, c'est inadmissible pour Azam Adab, délégué syndical central CFDT.
Pendant plusieurs années, les salariés ont fait des excellents résultats, en fait. Aujourd'hui, on vient dire à ces mêmes salariés qui ont fait les succès de la boîte, pour que ça marche mieux, il faut se séparer d'une partie de vous. Tout ça, en fait, dans un contexte où il y a 2 mois encore, le groupe Bouygues a mis des milliards sur la table pour acheter SFR. Un jour, on a des milliards pour acheter une entreprise, et le lendemain, on va supprimer des emplois.
Les syndicalistes qui craignent que le groupe ne se sépare de ses salariés que pour mieux se vendre. Aujourd'hui, il faudrait mettre sur la table, selon les experts, entre 5 et 6 milliards d'euros pour s'offrir Bouygues Télécom.
Manuel Ruffez, merci. Et donc, CCE de Bouygues Télécom cet après-midi. De la téléphonie à l'automobile avec Toyota qui rappelle 2 270 000 voitures dans le monde, dont les berlines Corolla et les citadines Yaris, en cause un problème d'airbag. Le gonfleur peut être défectueux et dans le pire des cas peut même s'embraser. L'Irak et l'inquiétude de Washington qui parle d'une menace pour la stabilité de toute la région. Après Fallujah, il y a quelques semaines, les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant se sont emparés hier de Mossoul, la deuxième ville du pays, des centaines d'hommes armés qui occupent ce matin le siège du gouvernement local, de la police, les prisons, les chaînes de télé. Les habitants fuient par milliers, pour certains jusqu'en Jordanie. À Amman, Angélique Ferrat.
Les rebelles contrôlent les banques, les bâtiments officiels, la télé régionale, l'université. Des milliers d'habitants fuient, eux, sur les routes. Mais les Kurdes ont fermé la frontière dans leur région autonome, plus au nord. Donc, beaucoup de familles s'entassent dans les villages autour de la ville de Mossoul. Cette femme est originaire de Mossoul. Sa famille et ses amis disent tous la même chose. La ville est calme, il n'y a juste pas d'eau et que 3 heures d'électricité par jour. Le drapeau de l'État islamique flotte sur les bâtiments officiels. Des photos de Saddam Hussein sont même réapparues.
Al-Qaïda et les tribus entrées en rébellion combattent ensemble. Ils veulent changer le gouvernement. Ils l'ont dit eux-mêmes à la population par haut-parleur. Nous n'avons rien contre vous, ont-ils dit. Nous voulons changer le gouvernement. Ils ne poursuivent que les gens qui portent un uniforme ou qui ont des voitures officielles.
Les rebelles ont déclaré vouloir maintenant prendre Tikrit, Kirkouk, puis Bagdad, la capitale. Le mouvement anti-Maliki a commencé dans l'ouest du pays en janvier dernier. Des tribus sunnites ont pris les armes aux côtés de combattants d'Al-Qaïda lorsque l'armée irakienne a attaqué 2 villes de la contestation sunnite, Fallujah et Ramadi. À Amman, Angélique Ferrat pour France Inter.
Et ce matin, le premier ministre irakien Nouri al-Maliki propose même d'armer les citoyens qui souhaiteraient se battre contre les terroristes. Retour en France, où on a tous un jour connu ça, ne pas dire bonjour à ses collègues, ne pas leur tenir la porte, ne pas dire merci, parler fort dans un open space, sans s'occuper du voisin. Eh bien, toutes ces petites incivilités peuvent gâcher la vie des salariés, les démotiver, voire les déprimer complètement. D'après une enquête d'Eleas, un cabinet de conseil en management spécialisé dans les risques psychosociaux, eh bien, près d'un salarié sur 2 dit subir cela, 42%, et 33% disent même en souffrir. Véronique Julia.
L'incivilité au travail, ce n'est pas seulement insulter un collègue ou lui faire une scène parce qu'il n'a pas transmis un dossier. Souvent, c'est beaucoup plus sournois, une sorte de poison lent fait de petits détails qui se répètent et qui plombent l'ambiance. Xavier Alas-Luquetas préside Eleas, le cabinet qui a mené l'étude.
Pas dire bonjour, ni au revoir à un collègue, couper la parole, arriver en retard sans s'excuser, manifester ostensiblement son ennui pendant une réunion professionnelle. Il y a une expression aujourd'hui, les gens disent « on ne me calcule pas ».
D'après l'enquête, les incivilités subies sont plus fréquentes quand le personnel est en contact avec le public. Les fonctionnaires se disent d'ailleurs plus concernés que la moyenne. La crise aurait, semble-t-il, amplifié le phénomène. En tout cas, les effets sur le moral sont dévastateurs.
La crise a eu un impact tout simplement parce que intensification des conditions de travail, problématiques de charge, les gens n'ont plus le temps. Donc quand on n'a plus le temps et qu'on est stressé, on fait juste moins attention à l'autre. Petit à petit, l'individu est attaqué dans ses fondamentaux, l'estime de soi, la motivation.
Et pourtant, à l'heure qu'il est, une entreprise sur 3 seulement s'est saisie du problème.
L'incivilité, c'est très lié à l'implicite. C'est tout ce qu'on ne dit pas, ce qu'on supporte, mais dont on ne parle pas. En fait, il faut sortir de l'implicite.
Pourtant, l'entreprise n'est pas forcément la seule fautive. Pour la plupart des salariés, l'incivilité vient surtout des mentalités qui ont évolué avec un rapport aux règles. qui s'est distendu.
Véronique Julia, le foot, ça approche J-1 avant le match d'ouverture de ce mondial. Demain jeudi, stade flambant neuf de Sao Paulo. Premier match entre le Brésil et la Croatie. Pour les Bleus, vous le savez, il faut encore un peu patienter. Premier match dimanche face au Honduras. Et à Sao Paulo se tient aussi, depuis hier, le congrès de la FIFA. Mais cette année, dans une ambiance totalement délétère. Franck Ballanger.
Le 64e congrès de la FIFA devait ressembler aux 63 précédents, une sorte de paradis de la pensée unique où la voix du président porte toujours plus haut que celle des autres, sauf que cette fois, et pour la première fois, Joseph Blatter, le président, est contesté. Au moment où l'instance suprême du football mondial est éclaboussée par une série de scandales, dont des soupçons de corruption dans l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Michael Van Praag, le patron de la fédération néerlandaise, a expliqué hier à un quotidien d'Amsterdam que Sepp Blatter est en grande partie responsable de l'image de plus en plus dégradée du football mondial. Van Praag estime que le Suisse aurait dû écouter les critiques et les inquiétudes, y compris celles des sponsors qui se sont exprimés, et aurait dû en tirer la conclusion appropriée. Deux points, ouvrez les guillemets. Lorsque vous êtes en poste depuis 16 ans, il vient un moment où vous devez vous poser la question de savoir si vous êtes encore utile. Très clairement, pour Michael Van Praag, la réponse est non. Il demande le départ de Blatter, comble d'ironie le jour où le Suisse devrait annoncer qu'il brigue un cinquième mandat à la tête de la FIFA. À Sao Paulo, Franck Ballanger, France Inter.
Enfin, en basket, troisième match cette nuit de la finale NBA, le championnat américain. Les Spurs de Parker l'ont emporté 111 à 92 sur le Heat de Miami. San Antonio mène donc 2-1. Enfin, on a appris, Patrick, la mort de Balou. Vous savez, cet ours brun de 11 ans qui avait été lâché en 2006 dans les Pyrénées. Il a été découvert mort sur le territoire de la commune de Mel en Haute-Garonne. Il a vraisemblablement été victime d'une chute. Bonne journée quand même.
Merci, c'était Mickaël Thébault sur Inter pour le journal. 8h16, la route.
Point route avec 1000 étoiles, les occasions du réseau Mercedes-Benz. À retrouver sur occasion.mercedes.fr.
Michel Berga, comment ça se passe ce matin sur la route?
Eh bien, ça se passe pas trop mal aux approches marseillaises. En revanche, il n'en va pas de même en Rhône-Alpes avec une opération escargot sur l'A46 et 18 km de bouchons au sud de Lyon. Circulation fortement perturbée sur l'A41 et une dizaine de kilomètres très ralentis sur l'A40 en descendant vers Mâcon. Pour les franciliens, opération escargot porte de la Chapelle sur la Bretagne. Tel d'accès à l'autoroute du Nord depuis le boulevard périphérique intérieur, un secteur totalement saturé et fortement déconseillé. Des rassemblements de chauffeurs de taxi sont signalés en banlieue est du côté des collégiens et en banlieue sud au niveau des Ulysses. Je rappelle qu'après avoir rallié les aéroports de Roissy et d'Orly, les taxis redescendront en milieu de matinée vers l'école militaire dans le 7e, un mouvement de protestation prévu toute la journée.
Merci, voici géopolitique.
France Inter. Le 7-9.
Bonjour Bernard Guetta.
Bonjour Patrick.
Le football et ses révolutions qui grondent.
Le foot est une passion nationale. Le foot avait longtemps été l'identité collective de ce pays de plus de 200 millions d'habitants, de ce continent au cœur du sous-continent latino-américain où les races se mélangent et les plus grandes fortunes côtoient la plus grande misère. Mais c'est pourtant dans la colère, les grèves et la contestation que le Brésil accueille la 20e Coupe du Monde qui s'y ouvrira demain. Alors même que d'immenses manifestations de joie populaire avaient salué il y a 7 ans le choix de leur pays pour l'organisation du plus grand et plus populaire des événements sportifs, seuls 51% des Brésiliens continuent à se réjouir qu'ils se tiennent chez eux et à peine plus d'un tiers d'entre eux estiment aujourd'hui que leur économie s'en portera mieux. C'est un spectaculaire retournement. Il tient beaucoup au coût de ces jeux, près de 9 milliards d'euros dans un pays où tant reste à faire, aux critères de confort, de construction et de transport que la FIFA impose aux pays hôtes, quel que soit son niveau de développement, au contraste, en un mot, entre le luxe de cette fête et la pauvreté dans laquelle vivent encore tant de Brésiliens. Il y a là comme un choc de civilisation auquel s'ajoute une colère contre les dépassements budgétaires qu'amplifient les rumeurs de corruption entourant désormais la FIFA. Le foot est devenu bien trop mercantile pour rester même au Brésil Brésil, aussi populaire, intouchable et au-dessus de la mêlée qu'il l'avait longtemps été, mais même l'addition de ces raisons ne rend pas compte de ce désamour brésilien pour une coupe qui fut tant aimée. La véritable explication est que 3 décennies après la fin de la dictature militaire, le Brésil a immensément progressé. Les milliards investis dans les programmes sociaux ont considérablement élargi les rangs de la classe moyenne. La démocratie s'est enracinée, des proscrits d'hier sont passés des chambres de torture aux responsabilités gouvernementales et ce pays compte parmi les nations émergentes qui pèseront lourd dans ce siècle. Le Brésil n'est autrement dit plus un pays qui puisse se contenter du pain et des jeux, la recette romaine du pouvoir d'un peu de pain et de beaucoup de jeux. La chaleur des stades n'y compense plus la dureté du quotidien, le sport même le foot ne peut plus y être ce que Marx disait de la religion, l'opium du peuple, car il y a désormais trop de Brésiliens assez instruits pour lire une presse devenue libre, connaître les statistiques sur les inégalités et savoir ce qu'est un budget national et ce que devraient en être les priorités. Pacifiques ou violentes, les révolutions se produisent rarement lorsque les peuples ne voient aucune raison d'espérer. Elles éclatent bien plutôt lorsque les progrès économiques et sociaux ont été suffisamment profonds pour qu'une société puisse entrevoir des lendemains meilleurs, manifester une colère et se faire entendre. C'est ce qui se passe au Brésil. C'est ce qui se passe en Turquie et dans tous les pays où les classes moyennes se sont récemment affirmées. C'est tôt ou tard ce qui se passera en Chine. Et ce grand réveil des peuples sortant de la misère sera l'un des grands fracas de ce siècle.
Bernard Guetta, merci. Dans un court instant sur Inter, Alain Juppé sera notre invité.
Alors, ça avance bien les travaux de ta maison?
C'est le bazar, mais bon, avec le bébé en route, fallait bien agrandir.
Et ta nouvelle boîte, ça se passe bien?
Ouais, pourvu que ça dure, hein. Il y a toujours le risque de tout perdre, la maison, la boîte.
Si tu veux être tranquille, va voir un notaire. Il t'aidera à te protéger en séparant le perso et le pro. Comme ça, t'évites les problèmes en cas de problème.
Les notaires, ils pensent à tout. Ils pensent à nous et ils pensent à demain.
Crois-moi, avec un notaire, tout est clair.
Ouais.
Je sais tes matchs, ça aussi, c'est clair.
现在哪儿了？那被害人被害的手都穿着冰刀呢。
France Inter présente Black Call, un film de Diao Yinan, Ours d'or à Berlin, actuellement au cinéma.
就是在陪着一个活死人。
Suite à la découverte de nouveaux meurtres, Zhang, ancien flic solitaire, reprend une enquête vieille de 5 ans. Toutes les victimes semblent liées à une mystérieuse jeune femme.
他杀了追求我唯一喜欢的人。
Retrouvez Black Call, un polar envoûtant, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Il est 8h21.
France Inter, le 7-9 de Patrick Cohen.
Bonjour Alain Juppé.
Bonjour.
Maire de Bordeaux et, comment doit-on dire, membre de la Troïka ou du quatuor dirigeant de l'UMP, sauveur du parti.
Un quatuor, c'est 4, là nous sommes 3, donc c'est le collège des anciens premiers ministres.
Donc, Troïka ou Triumvirat, 3 patrons, Juppé, Raffarin, Fillon et un exécutant, Luc Chatel.
Il fallait sortir de cette crise qui mine l'UMP depuis des mois, hein, après l'élection présidentielle calamiteuse à la tête du mouvement, et puis toutes les affaires qui sortent mois après mois. Donc il fallait apaiser les choses. Et je me réjouis que hier, notre bureau politique, qui est l'instance légitime, hein, de direction du mouvement, ait pris une décision à l'unanimité. Je crois qu'il faut vraiment le souligner.
L'issue est apaisée, mais la discussion ne l'a pas été, Alain Juppé.
Une discussion, c'est normal. Mais écoutez, s'il n'y avait pas eu de discussion, il n'y aurait pas eu de bureau politique.
Franche et viril, dit Luc Chatel.
Chacun a présenté son point de vue.
Vous avez menacé de claquer la porte?
Non, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est l'unanimité.
Alors, on cherche à savoir, quand même.
Bah oui, mais c'est le résultat qui compte, ce n'est pas le processus. Vous auriez bien aimé participer au bureau politique.
Il y a eu des résistances.
C'est vrai qu'il y a eu des thèses en présence.
Il y a eu des résistances.
Mais, oui, encore heureusement, ça prouve qu'on vit. Mais l'important, c'est le résultat. Le résultat, c'est cette unanimité. Cette volonté surtout de rendre la parole à nos militants. Parce que moi, je pense à eux. Ils sont malheureux aujourd'hui. Je les vois, moi, sur mon terrain à Bordeaux, militants et même au-delà, sympathisants, ceux qui ont de la sympathie pour l'UMP et qui ne comprennent pas ce qui s'est passé depuis des mois. Donc, il fallait leur redonner la parole. Et la décision importante, c'est la réunion d'un congrès de l'ensemble de nos militants, au plus tard au mois de novembre, pour réélire un président, pour élire un nouveau président, et aussi pour débattre de la ligne politique du mouvement.
On va y venir. Le parti est sauvé ou c'est une paix armée que vous avez conclue?
Non, personne n'est armé et c'est la paix. Donc c'est une vraie paix, je crois. Et nous allons, Jean-Pierre Raffarin, François Fillon, moi-même, y contribuer, bien sûr, avec Luc Chatel. Parce qu'on a besoin de l'UMP sur la scène politique française. Je sais que les partis politiques aujourd'hui sont honnis. Personne ne les aime, tout le monde les critique. Mais est-ce que vous connaissez dans le monde une seule démocratie sans parti politique? Et quand il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de démocratie. où il y a un parti unique. Donc on a besoin de partis, il faut donc que l'UMP retrouve sa vocation de rassemblement de la droite et du centre et joue son rôle. On en a besoin aujourd'hui. Quand on voit la politique gouvernementale, on voit bien que l'une des missions aussi fortes de l'UMP, c'est de faire une opposition intelligente.
Qu'allez-vous faire dans les semaines à venir? D'abord, vous occupez des finances de l'UMP?
On va remettre les choses à plat. Moi, je ne vais pas m'intéresser. Nous n'allons pas nous intéresser au passé. Il y a une instruction judiciaire là-dessus. C'est à la justice de dire ce qui s'est passé, ce qui est de répréhensible,
vous
cas échéant.
Vous ne mettrez pas le nez dans les comptes de la campagne présidentielle pour savoir où est passé l'argent de l'UMP.
Ce n'est pas notre rôle, c'est la justice qui s'en occupe.
Mais ça peut être long, la justice.
Oui, bien sûr, mais c'est aussi approfondi et sérieux et efficace. Nous mettrons les comptes à zéro pour savoir quelle est la situation aujourd'hui et ce que nous pouvons faire dans les prochains mois. Un audit, donc, indépendant sera demandé pour y voir tout à fait clair.
Si la situation financière est grave, vous pourriez à nouveau solliciter les militaires.
Écoutez, n'anticipons pas sur le résultat de cet audit.
Et ensuite, vous l'avez dit, préparer le congrès, organiser l'élection du nouveau président. Il y aura un vote des militants pour élire le président?
Naturellement, c'est nos statuts qui le prévoient et nous les respecterons. Je le répète, il faut leur redonner la parole. Ils ont envie de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent. Alors on va voir qui est candidat. Nous avons 6 mois devant nous, vous voyez.
Oui, on a déjà une petite idée sur qui est candidat.
Certains se sont déjà déclarés, et c'est normal, ce qui prouve qu'il y a un intérêt pour cette rencontre, ce rendez-vous.
Les partisans de l'ancien président de la République ont fait savoir qu'il allait concourir. C'était son intention. Si c'est le cas avec un vote des militants, ce sera un plébiscite annoncé pour Nicolas Sarkozy, non?
C'est à lui que la décision appartient. Pour l'instant, il n'en a pas exprimé le vœu, mais c'est évidemment une hypothèse qu'il faut envisager. D'autres candidats se sont déclarés ou vont se déclarer.
Si Nicolas Sarkozy ne préparait pas son retour, Alain Juppé, on ne comprendrait rien aux batailles de ces dernières semaines.
Peut-être, c'est votre interprétation. Moi, je le répète, ce qui m'intéresse, c'est pas les batailles passées, c'est la paix qui a été déclarée hier soir et qui nous permet de repartir sur des bases, je crois, consensuelles. Je crois qu'on s'est bien rendu compte hier soir que c'était quand même un moment important parce que l'UMP pouvait exploser. Si cette solution consensuelle n'avait pas été adoptée, elle l'a été, ce qui prouve qu'il y a une très forte volonté d'aller de l'avant entre nous.
Au lendemain du départ de Jean-François Copé, vous aviez émis le souhait d'une règle, c'est que le président de l'UMP ne soit pas candidat à la présidentielle.
Ce n'est pas inscrit dans nos statuts, je le reconnais bien volontiers. Ça me semblerait une mesure de sagesse politique, alors on va voir si cette idée s'impose ou pas.
Mais elle pourrait s'imposer dans les prochains mois, d'ici au congrès?
Elle pourrait.
Et il faudrait l'inscrire dans les statuts, ce serait possible avant le congrès?
Ça pourrait être une décision collective, mais enfin on n'en est pas là. Et je sais que beaucoup le contestent en expliquant que rien ne le prévoit dans le statut.
Forcément, les sarkozystes verraient cela comme une déclaration de guerre.
Oui, mais vous me reparlez de la guerre, je vais vous reparler de la paix.
Bon, ce qui est inscrit dans les statuts de l'UMP, en revanche, ce sont des primaires pour désigner le candidat de l'UMP à la présidence de la République. C'est intangible?
Écoutez, on ne peut pas m'expliquer, comme on l'a fait hier à longueur de journée, qu'il faut absolument respecter les statuts et puis s'empresser de ne pas les respecter sur un point essentiel. Nous avons fait voter l'année dernière, pardon de toutes ces précisions qui n'intéressent peut-être pas massivement nos interlocuteurs, mais enfin, nous avons fait voter des statuts qui ont été ratifiés à 92% par les militants et qui ont inscrit les primaires. Et il y a les statuts, mais il y a aussi l'air du temps. Moi, je pense que donner la parole non seulement à nos militants, mais aussi à nos sympathisants pour qu'ils participent au choix du futur champion, c'est dans la culture politique d'aujourd'hui. Les gens ont envie de participer. Ils n'ont pas envie que les décisions soient prises par un petit collège parisien qui dit « voilà, ça sera monsieur Untel qui sera candidat ». Ils ont envie de pouvoir s'exprimer et c'est la philosophie des primaires.
On a entendu il n'y a pas longtemps de partisans de l'ancien président, les primaires ce n'est pas gaulliste.
Oui, mais est-ce que le général de Gaulle est présent actuellement sur la scène politique? Si vous en trouvez un, dites-le-moi. À ce moment-là, on ne fera pas de primaire.
Ce qui est interdit de se réclamer du gaullisme désormais,
bien sûr.
Alain Juppé?
Si un général de Gaulle surgit de manière inattendue dans les semaines qui viennent, on en tiendra compte.
Donc, les statuts, les primaires, mais les statuts, ça peut se modifier, ça peut éventuellement se modifier par un nouveau président qui serait élu en novembre.
Ça, c'est autre chose, oui, mais pour l'instant, nous sommes dans cette disposition statutaire, nous préparons le congrès dans le respect de nos statuts et dans cette volonté de rassemblement que j'ai évoquée tout à l'heure. N'oublions pas que l'ADN de l'UMP, j'y suis pour quelque chose, avec d'autres, j'ai participé à sa fondation, c'est de rassembler largement la droite et le centre pour avoir un grand parti d'alternance. Et nous en avons besoin aujourd'hui. Regardez les dégâts de la politique gouvernementale. On est en train de découvrir ce matin que la loi du flot est une véritable catastrophe et que le gouvernement va l'abandonner parce que ça a complètement stérilisé la construction en France. Voilà un travail que nous avons avons à faire, expliquer, nous l'avons fait à l'époque, expliquer pourquoi, sur certains points, le gouvernement se trompe. Dans d'autres cas, comme sur la réforme territoriale, essayer de la tirer dans le bon sens, parce qu'elle n'est pas mauvaise dans son esprit, elle est calamiteuse dans sa méthode. Voilà des choses que nous avons à faire et que nous allons faire aussi dans les prochains mois.
Au lendemain du bureau politique qui a entériné le départ de Jean-François Copé, vous avez aussi lancé... appelé à une main tendue à l'égard du centre et à une alliance retrouvée entre l'UMP et les formations du centre. Vous n'avez pas eu beaucoup de retours positifs pour cela, Alain Juppé.
Bon, écoutez, chaque fois que j'ai évoqué cette hypothèse devant mes militants, je me suis fait applaudir. Alors, il faut faire la distinction des choses entre ce que pensent les gens sur le terrain, et ils sont pour un large accord, de façon à construire une nouvelle majorité, et puis ce que pensent certains dirigeants parisiens. Mais enfin, qui peut s'insurger contre le fait qu'entre une UMP rénovée et revigorée, et puis un centre qui partage beaucoup de nos visions sur l'avenir du pays, il puisse y avoir une discussion, un accord électoral, à moins qu'on décide de laisser la première place au Front National dans toutes les élections à deux tours. On peut aussi décider ça.
Les militants, vous en parlez depuis le début de cette interview, ils sont toujours là, l'UMP. On dit qu'il y a une hémorragie assez importante qui s'est produite ces derniers mois.
Incontestablement, nous n'avons pas le même enthousiasme pour renouveler les adhésions que celui qu'on a pu connaître dans les mois passés. Mais la disponibilité, elle est là. Et même des militants qui n'ont pas renouvelé sont prêts à revenir s'ils ont à nouveau confiance dans le parti, dans la façon dont il est dirigé et dans le message qu'il adresse aux Françaises et aux Français. Donc je crois que c'est ça qu'il faut reconquérir.
Alain Juppé, invité de France Inter ce matin. On vous retrouve dans quelques minutes avec d'autres sujets, évidemment. Et puis les questions des auditeurs de France Inter qui nous appellent au 01 45 24 7000. Dans un instant, la revue de presse.
L'infotrafic SNCF.
Aujourd'hui, le trafic des trains est perturbé. Pour connaître les trains qui circulent, allez sur sncf.com.
Ou par téléphone, appelez pour le réseau transilien le 0805 700 805.
Et pour les TER et les trains grandes lignes en France et en Europe, le 0805 90 36 35. Appel gratuit depuis un poste fixe.
L'Esprit Inter,
la sélection pop française et internationale de France Inter.
Pour la première fois, découvrez la programmation musicale audacieuse de France Inter dans un coffret double CD. 36 chansons.
Des découvertes comme Christine and the Queens,
Fauve,
Cantique,
Jungle,
Isaac Delusion.
Et des artistes devenus grands comme Metronomy,
Woodkid,
Agnès Obel
ou Alex Baupin.
L'Esprit Inter,
déjà disponible en coffret double CD et en téléchargement légal.
Une coédition Radio France.
Il est 8h31. Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
Dans la presse ce matin, le pays des blocages.
C'est bientôt l'été, la France se prépare, les trains restent en gare, les projecteurs s'éteignent sur les scènes de spectacle et les élèves partiront bientôt pour de très longues vacances en laissant derrière eux une école embourbée dans ses réformes. On pourrait ajouter les taxis à l'arrêt. Un brin d'ironie, voire de provocation dans la Croix ce mercredi matin. La France face à ses blocages, titre le quotidien. Concurrence dans le secteur des taxis, réforme du rail, assurance chômage des intermittents, ces problèmes sont loin d'être nouveaux, constate Guillaume Goubert dans l'éditorial. Les enjeux ont été identifiés, abondamment étudiés, des propositions ont été mises sur la table et pourtant, aucun compromis ne parvient à émerger. Faiblesse des instances de médiation en France, les partenaires sociaux, le Parlement aussi, qui ne parvient pas à s'affirmer comme le lieu où se définit l'intérêt général. Le problème ne vient pas d'en bas, mais d'en haut, complète le sociologue Michel Wieworka dans le dossier du journal consacré au blocage de la France. Nos élus, dit-il, ont de vieilles méthodes technocratiques qui ne sont plus adaptées aux attentes des citoyens. On ne peut pas engager le pays dans le changement si on ne donne pas du sens au futur, si on n'explique pas où on va. Aujourd'hui, sans train ni taxi, on risque de ne pas aller très loin ou alors à pied. Quelle galère à la une du Parisien aujourd'hui. Et pourtant, à en croire une étude de la Commission européenne reprise dans le Parisien, les Français sont plus satisfaits de leur transport public que la moyenne des Européens. Fréquence, tarifs, informations aux voyageurs, ponctualité. La France est troisième de ce classement européen établi par la Commission après avoir interrogé les usagers des transports publics. La France, pays difficile à réformer et du coup, dans les dossiers les plus délicats, bien avant de trancher, le pouvoir hésite.
Oui, c'est ce que lui reproche Libération ce matin.
À la une, le procès du docteur Bonnemaison, accusé d'avoir accéléré la mort de 7 personnes à Pau. La fin de vie en procès, titre le journal. Le mois de juin sera dense à ce sujet. Le procès donc aujourd'hui, l'arrêt du Conseil d'État dans l'affaire Vincent Lambert et le rapport du Comité national consultatif d'éthique attendu. Faut-il changer la loi ? Depuis 2 ans, le gouvernement promet et tergiverse, écrit Éric de Couty dans l'éditorial de Libé. Le projet de loi qui devait être présenté à la fin de l'année ne serait plus au calendrier. Une nouvelle mission parlementaire pourrait voir le jour. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Cela dit, il y aura déjà du lourd sur la table du Conseil des ministres ce mercredi et les suivants. Collectif budgétaire, autrement dit la version corrigée du budget de l'année. Idem pour le budget de la Sécu et la nouvelle carte des régions. Le tout avec une majorité pas spécialement docile. La majorité met valse sous pression, titre le Figaro. Un des chefs de file des députés socialistes frondeurs promet du sang et de la viande. Ce sera une boucherie, une charcuterie, une triperie. À l'Élysée pour l'instant, il y a un panneau, chantier en cours. Nouveau remaniement hier dans l'équipe des conseillers. Principal mouvement, le départ d'Emmanuel Macron, conseiller économique très influent, remplacé par Laurence Boone, ancienne de chez Barclays Capital. Ironie encore d'un député socialiste frondeur dans le Parisien. Les chars soviétiques sont à nos portes. Un autre conseiller pourrait bientôt partir, Fawzi Lamdaoui, menacé par une enquête de l'Office anticorruption. Il est soupçonné de fraude fiscale et recèle d'abus de biens sociaux. Les blocages de la France, ce sont aussi ceux-là, les partis politique embourbée dans les affaires et les divisions. L'UMP va-t-elle sortir de la vase après le bureau politique hier soir ?
Désormais, donc, le trio ou la troïka ou le triumvirat, Juppé, Fillon, Raffarin, est à la barre. Mais il paraît que vous avez décidé, enfin, c'est ce qu'a dit François Fillon, que de ne pas employer ces mots-là, mais d'employer le mot collège. C'est ça, c'est un collège qui va diriger le parti, Alain Juppé.
Ce qui compte, c'est bon. Le travail que nous allons faire. D'accord. C'est pas le nom que nous nous donnons. J'aime bien collège, effectivement.
Les mots sont importants.
Surtout à la fin de l'année scolaire, là, c'est bien ça.
Alors, le collège. Bon, on parle de triumvirat.
On parle de troïka en titre dans Libération. Et donc, la troïka, voilà, Juppé, Fillon, Raffarin à la barre, ou grand dame des amis de Nicolas Sarkozy, à en croire Alain Auffray, menée par Brice Hortefeux. Ils auront bataillé jusqu'au bout. La troïka, selon eux, devait se contenter d'un magistère moral. L'objectif, écrit-il, des sarkozistes était clair, empêcher Juppé et Fillon d'avoir accès aux coulisses et aux secrets de l'UMP. Dans cette affaire, écrit encore Ludovic Vigogne, dans l'opinion, Alain Juppé et François Fillon auront travaillé main dans la main. Les coulisses et les secrets de l'UMP dans l'affaire Big Malion, ils sont dévoilés dans Libération, selon le journal. Le nom de l'actuel directeur général Éric Césari et sa signature apparaissent sur les devis envoyés à l'UMP par la filiale de Big Malion qui organisait les conventions présumées fantômes du parti. Éric Césari avait un rôle central dans la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, rappelle encore Libé. Au rayon des affaires, le cas de Claude Guéant dans le Parisien. Selon le journal, le procureur financier Éliane Houlette a sur son bureau un rapport des enquêteurs qui lui suggère de renvoyer en correctionnel l'ancien secrétaire général de l'Élysée dans l'affaire des primes de cabinet. Les divisions, le Front National n'y échappe pas avec ce drame familial qui se déroule sous les yeux des électeurs. La rupture entre Marine Le Pen et son père. Derrière les petites phrases du père qui scandalise la presse et embarrasse sa fille, y aurait-il volonté de lui nuire ? Élément de réponse d'un proche de Marine Le Pen dans Le Monde. Le Pen père est d'une jalousie maladive. Il ne supporte pas que le FN fasse mieux sans lui. Le fond du problème est là.
Quoi d'autre dans la presse, Bruno ?
La deuxième ville d'Irak, Mossoul, aux mains des djihadistes. Inquiétude de la presse américaine. Le sujet est à la une du New York Times, édition internationale, et du Financial Times Europe. En manchette du Monde, affaire HSBC, les dessous d'une gigantesque fraude fiscale. La banque suisse est suspectée d'avoir incité 3000 contribuables français à frauder le fisc. Le plan de survie de Bouygues Télécom, principal sujet des échos. Plan de restructuration massif avec des licenciements, selon le quotidien économique. Et puis le Brésil, évidemment. Le Brésil qui retient son souffle à la une de l'équipe et à la veille du mondial. Enfin, la piscine la plus cossue de Paris, vue par l'humanité. L'UMA, qui a des fins de mois difficiles, a tout de même offert à son journaliste Mehdi Fikri les 180 euros nécessaires pour faire trempette dans cette ancienne piscine populaire, devenue au lieu du super luxe. Ah, vous voulez aller à la piscine, mais vous connaissez les tarifs, demande le vigile, oui, et il paye rubis sur l'ongle. Aussitôt, une hôtesse lui propose une petite visite. Molitor, c'est un de ces endroits où un employé vous demande toutes les 10 minutes si tout se passe bien, monsieur. 180 euros tout de même, dit-il à l'hôtesse. Oh, c'est relatif, répond-elle. Et elle ajoute, le bassin a été vidé hier soir pour une soirée privée Nike. Serena Williams et Raphaël Nadal ont joué dans le bassin. Au bord de la piscine, un vieux monsieur enseigne à une adolescente le placement de produits de luxe au festival de Cannes. Et en jetant un coup d'œil à la piscine, il ajoute, avec les nuages, on a l'impression d'être sur un paquebot entre Barcelone et Ibiza. Tout se passe bien, monsieur, demande l'hôtesse. Moyen, en fait. L'UMA déteste ce lieu réservé à la haute, comme l'écrit le journal. Image de la détresse d'un employé qui vous a donné un peignoir à la mauvaise taille. Ses excuses étranglées, écrit l'UMA, révèlent la violence sociale du lieu. À demain.
Merci, c'était Bruno Duvic pour la revue de presse. Bruno, que vous retrouverez au commandes de la matinale demain sur France Inter entre 7 et 9. Dans un instant, retour de notre invité Alain Juppé.
Hey, vous ? Oui, vous, derrière la radio. Vous faites quoi le 14 juin pour la journée mondiale des donneurs de sang ? Je dis ça parce qu'en moins d'une heure, vous pouvez sauver une vie. Des vies ! Venez, on a besoin de vous.
Faisons du 14 juin un grand jour pour la vie. Donnons notre sang. Pour savoir où donner, rendez-vous sur dondusang.net. Ceci est un message de l'Établissement français du sang.
C'est à moi !
Non, c'est à moi !
Non, c'est à moi !
Non, c'est papa qui m'a donné !
C'est à moi !
Papa !
20 ans plus tard.
Papa, Greg veut pas me passer le pan.
Viens le chercher.
Oh, vous êtes pénible, hein.
Mais papa, on rigole.
Mais. Enfin, pour être tranquille, avec votre mère, on a pensé à ce qu'on allait vous transmettre. Comme ça, fini les « c'est à moi », non, c'est à moi. On va tous aller voir un notaire.
Les notaires, ils pensent à tout, ils pensent à nous et ils pensent à demain.
Ok, au moins avec un notaire, tout est clair. Bon, rends-moi ce bout de pain, papa.
Tabac Info Service, bonjour.
Bonjour, je vous appelle parce que je voudrais arrêter de fumer, mais j'ai peur de pas y arriver toute seule.
Si vous voulez, je peux vous proposer d'être accompagné par un de nos tabacologues.
Ah oui, ça m'aiderait, mais c'est payant ?
Non, en fait, seul ce premier appel est facturé 15 centimes la minute. Mais ensuite, le suivi fonctionne par rendez-vous. Vous serez rappelé gratuitement au moment où vous le désirez.
Ah, très bien. Je peux commencer maintenant ?
Pour arrêter de fumer, appelez Tabac Info Service au 39 89 15 centimes la minute et bénéficiez ensuite d'un suivi personnalisé gratuit par un tabacologue. 39 89, un service de l'INPES et du ministère de la Santé.
L'infotrafic SNCF.
Aujourd'hui, le trafic des trains est perturbé. Pour connaître les trains qui circulent, allez sur sncf.com.
Ou par téléphone, appelez pour le réseau Transilien le 0805 700 805.
Et pour les TER et les trains grandes lignes en France et en Europe, le 0805 90 36 35. Appel gratuit depuis un poste fixe.
Il est 9h20.
Le 7-9 de France Inter. Patrick Cohen.
Alain Juppé, maire de Bordeaux et membre de la direction collégiale de l'UMP, notre invité ce matin. Deux questions en lien avec la revue de presse de Bruno Duvic que vous venez d'entendre. Le directeur général de l'UMP, Éric Césari, doit-il être maintenu à son poste ?
L'UMP a besoin d'une véritable césure par rapport à la gestion précédente. Il est donc bien dans nos intentions de renouveler complètement l'équipe administrative et financière de l'UMP.
Donc il y aura une nouvelle équipe qui sera mise en place très rapidement.
Dès le prochain bureau politique de la semaine prochaine, puisque aujourd'hui, qui dirige l'UMP, c'est ce bureau politique, avec à sa tête le collège que vous avez évoqué tout à l'heure et la collaboration de Luc Châtel. Donc je crois que les choses maintenant sont très claires. Et une de nos priorités va être d'assurer la régularité des élections qui se préparent pour le Congrès. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des statuts, là encore, qui n'intéressent sans doute pas grand monde, mais nous avons une haute autorité indépendante, pilotée par un professeur de droit constitutionnel qui s'appelle Madame Levade, et c'est elle qui sera la garante de la régularité de ces élections, de façon qu'on ne retrouve pas ce qui s'est passé, hélas, il y a quelques mois.
Autre sujet d'actualité, les derniers propos de Jean-Marie Le Pen et le lavage de linge sale au sein du Front National dans la famille Le Pen. Qu'est-ce que ça dit, à votre avis, du Front National, Alain Juppé, que le Front National est en train de changer ou qu'il est resté le même?
Je crois que quand on chasse le naturel, il revient au galop. Enfin, on sait très bien quels sont les gènes de ce parti, quelle est son histoire, quelle est son idéologie. Alors, M. Le Pen l'exprime avec toute la brutalité qui est la sienne, mais c'est ça qui est à la base de cette formation politique, même si aujourd'hui, Marine Le Pen essaye, comment on dit, de la dédiaboliser.
Oui, c'est pas réussi.
Non, apparemment non, puisqu'il reste avec eux des adhérences, non ?
Oui, mais les électeurs ne perçoivent pas le Front National comme ils le percevaient il y a une dizaine d'années encore, Alain Juppé.
Tous les électeurs ? Je n'en suis pas sûr. Et en tout cas, c'est notre rôle à nous de rétablir la vérité. Voilà d'où vient ce parti et voilà ce qui est en débat encore en son sein aujourd'hui. Donc avant de se laisser entraîner à voter pour ce parti, je crois qu'il faut y réfléchir à deux fois.
Un quart des votants l'ont fait il y a quelques semaines pour les Européennes.
Eh bien, je les appelle à y réfléchir à deux fois. Il faudrait aussi analyser les raisons pour lesquelles il y a eu ce vote. Je crois qu'il y a ce sentiment très profond qui explique en grande partie la crise politique aujourd'hui d'impuissance des partis politiques de gouvernement. Je débattais hier dans un forum sur les villes de la situation des maires. Pourquoi est-ce que le maire reste encore un homme politique qui a un certain crédit auprès de l'opinion publique ? C'est parce qu'il fait des choses, parce qu'il réalise, parce qu'il construit. Comme dit Alexandre Jardin, nous n'avons pas besoin de think tank pour penser, nous avons besoin de do tank pour faire. Eh bien, c'est ça aujourd'hui qui manque aux responsables politiques nationaux, il faut des résultats. Et ça explique en grande partie le succès du Front National.
Est-ce que certains dirigeants de l'UMP ou de l'État éventuellement ont contribué à banaliser les thèses du Front National ?
pas à l'UMP en tout cas, qui a toujours été parfaitement clair sur le cordon sanitaire que nous avons maintenu avec les thèses du
cordon,
Front National.
Le cordon, c'est une chose. Le cordon, c'est, on parle du cordon pour les alliances ou les choses comme ça, mais sur les thématiques développées
mais
par le
Front National. Arrêtons de nous laisser là aussi tétanisé par le politiquement correct. Dire qu'il faut contrôler les flux migratoires en Europe et en France, ça n'est pas céder aux sirènes du Front National. C'est ta voix.
Bah oui. C'est le discours de Grenoble, par exemple.
Écoutez, relisez-le, le discours de Grenoble. Moi, je l'ai bien relu. Écoutez, on peut toujours en discuter indéfiniment. Je crois qu'il n'y a eu aucune espèce d'ambiguïté dans les positions de l'UMP et de ses leaders. Nous n'avons rien à voir idéologiquement avec le Front National. Et on s'en rend compte encore avec les déclarations récentes que vous avez évoquées. Donc, c'est une fausse querelle qu'on nous fait.
Il m'avait semblé tout de même qu'il y avait une part de critiques que j'ai entendues encore il y a quelques semaines quand, lors de votre discours de Bordeaux, enfin, une conférence de presse que vous avez tenue juste après le bureau politique de l'UMP.
Critique sur quoi ?
Critique sur nous savons ce qui nous rassemble à l'UMP et nous rassemblons d'abord contre le Front National.
Bah c'est pas une critique contre
l'UMP. Il y avait une tonalité critique contre la direction sortante.
Non, je ne pense pas. J'ai toujours dit aussi que j'ai toujours dit que l'UMP était un rassemblement. Donc qu'il y ait au sein de l'UMP une droite forte, populaire, sociale, qu'on appelle comme on voudra, ça fait partie du spectre politique de l'UMP dès lors que toute espèce d'alliance avec un parti dont nous ne partageons pas l'idéologie ni le projet politique. Enfin, je veux quand même rappeler que le Front National, c'est la retraite à 60 ans. Le Front National, c'est la sortie de l'euro. Donc il y a une espèce d'incompatibilité absolue entre le projet politique qu'il défend aujourd'hui et nos thèses. Donc je ne comprends pas très bien ce procès d'intention qu'ils nous ont fait. Est-ce que vous pouvez me citer un seul exemple qui n'ait pas été immédiatement sanctionné d'alliance entre un membre de l'UMP et le Front National ? Non, il n'y en a pas eu.
Des auditeurs d'Inter pour vous interroger. Diane qui nous appelle de Lyon. Bonjour Diane.
Cohen, et bonjour Monsieur Juppé,
bonjour.
De Bordeaux et ancien Premier ministre. Voilà. Ce n'est pas une question que je vous pose. Je vous dirais simplement, c'est un conseil, parce que j'ai suivi votre carrière politique, ça fait plus de 38 ans que je vous suis. Mon analyse est simplement aujourd'hui, vous avez la stature d'un homme d'État, vous avez la stature d'un gestionnaire, et quand on regarde votre compétence politique et votre compétence professionnelle, je dis aujourd'hui que vous êtes le seul candidat, et j'en appelle à tous les militants de l'UMP, de vous plébisciter. Parce que vous êtes la seule personne, la seule autorité aujourd'hui qui peut faire la synthèse et qui a un projet politique.
Voilà. Pour la présidentielle de 2017, si j'ai bien compris. Hein.
2017, voilà.
Très bien. Merci.
Ça, j'en suis sûr.
Merci.
Merci, Diane. Ce n'était pas une question, donc je n'ai pas à y répondre.
Ah, tout de même. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça.
Merci, Diane, de son analyse. Voilà, c'est tout.
Vous n'allez pas vous en tirer comme ça, tout de même. Écoutez,
ma position est bien connue, nous sommes en 2014, nous avons beaucoup de chemin à parcourir d'ici 2017, nous avons à remettre l'UMP sur pied, je vais m'y consacrer, j'ai mon boulot de maire de Bordeaux et de président de la communauté urbaine qui m'absorbe beaucoup, et c'est un grand défi de transformer cette grande communauté en métropole. On pourrait parler de la réforme territoriale aussi, c'est très important. Vous voyez, ça suffit à mon bonheur et à occuper mes jours.
Oui, et vous n'occupez en aucune façon vos journées à regarder ces sondages de popularité, ces électeurs qui
vous plébiscitent. Je suis habitué au pire. Oui. Aujourd'hui, ils sont meilleurs.
Justement.
Et donc, je suis très prudent sur l'avenir.
Et donc, vous avez le sourire.
Je sais que la roue tourne.
Et une question de Thomas Legrand, juste pour compléter.
Par rapport au blocage dont on parlait dans la revue de presse, avec le titre de La Croix, vous avez vécu 1995. Est-ce que vous avez évolué dans votre façon d'appréhender la façon de réformer la France et comment sortir de ces blocages aujourd'hui?
Oui, on dit beaucoup que la France n'est pas réformable. Ce n'est pas vrai. La France a profondément évolué au cours des 20 ou 30 dernières années. Il y a beaucoup de réformes qui se sont faites à l'université, même sur le plan territorial, on le voit bien aujourd'hui, ou dans d'autres domaines encore. Alors c'est vrai que c'est difficile, mais c'est partout difficile.
Pourquoi on n'arrive pas à des compromis?
On y arrive. Vous croyez que c'est facile de réformer l'assurance maladie aux États-Unis? Vous croyez qu'Obama est beaucoup plus à la facilité, enfin à la joie, si je puis dire, pour faire des réformes que nous ne le sommes ici. Donc c'est normal qu'il y ait des blocages. Alors c'est vrai que nous avons un déficit dans le dialogue social en France, on le sait bien, pour différentes raisons. Et donc il faut le développer et l'entretenir. Prenez la question des intermittents. Tout le monde est bien conscient que ce régime, dans son principe, doit être maintenu, si on va avoir toujours une création culturelle en France, mais qu'il doit être réformé parce qu'il n'est pas tenable sur le plan financier. Alors, il y a eu un premier compromis qui a été trouvé par les partenaires sociaux. Apparemment, il fait blocage aujourd'hui. Ben, il faut continuer la discussion et trouver une solution. Je crois que les mentalités évoluent aujourd'hui en France. Les Français sont parfaitement conscients qu'il va falloir changer notre mode de fonctionnement, qu'on ne peut pas continuer à dépenser beaucoup plus qu'on ne gagne. Alors, c'est difficile, l'accouchement se fait dans la douleur, mais je ne suis pas pessimiste. Je crois qu'il peut se faire.
Au Standard Inter, Gilles de Bordeaux. Bonjour Gilles.
Bonjour à toute l'équipe, bonjour à Monsieur Juppé. Alors, Monsieur Juppé, bonjour. Que j'ai écouté attentivement. Et j'ai entendu Monsieur Juppé nous expliquer que l'UMP avait vocation à être une union de la droite et du centre. Et dans les mêmes propos, dans les minutes qui suivaient, Monsieur Juppé n'a cessé de proposer un rapprochement de l'UMP avec le centre. Donc le centre est-il dedans ou dehors? C'est quand même quelque chose qui demanderait à être clarifié, dans la mesure où effectivement on voit bien que le vote des militants UMP et le vote des gens qui... Des électeurs de l'UMP ne sont pas les mêmes. Je vois bien M. Juppé être dans une tentative de remodération, de recentrage de l'UMP, ce en quoi je lui souhaite bon courage parce que la dérive des dernières années était dramatique pour l'échiquier politique français. Néanmoins, j'aimerais bien que les choses soient dites un peu plus clairement. Alors l'UMP droite, centre, droite plus centre, centre certainement pas, mais droite plus centre ou UMP plus centre après. Merci.
Merci.
Gilles, permettez-moi de faire un tout petit retour en arrière. Pourquoi est-ce qu'on a créé l'UMP en 2002 ? Et j'en étais le président fondateur. Vous vous souvenez peut-être ? On sortait de 10 ou 20 ans de rivalité entre le RPR et l'UDF, qui nous ont conduits à l'échec de 81, à l'échec de 88. Et ça a failli frôler l'échec en 95. Et donc on s'est dit, on va mettre ensemble, à condition évidemment qu'on soit d'accord sur un socle de projet politique, on va mettre ensemble la droite et le centre. Et c'est ça l'UMP, c'est son ADN. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Pardon, mais c'était cela.
Non, c'est ça, c'est son ADN.
Depuis, Borloo est parti.
Il y a toujours des centristes à l'UMP. Je pourrais en citer quelques-uns. Il y a des centristes à l'UMP.
Il y en a moins qu'avant.
Et puis, il y a une droite forte et populaire, je l'ai dit. Et puis, il y a des gaullistes. Donc, l'UMP est un rassemblement de ceux qui ne veulent pas du Front National et de ceux qui considèrent que le socialisme français est en faillite. Voilà ce que nous voulons rassembler. Alors,
droite,
il est vrai qu'aujourd'hui,
un certain nombre,
je ne veux pas recentrer l'UMP, je veux faire en sorte qu'elle soit fidèle à sa tradition et à ses gènes, je l'ai dit, c'est-à-dire qu'elle soit un rassemblement,
oui,
à la fois de la droite et du centre. Et puis, il se trouve qu'il y a des centristes qui nous ont quittés. C'est un échec, d'ailleurs. C'est un échec de l'UMP au cours des dernières années. Ils sont partis, étaient chez nous. Parce qu'ils se sont sentis mal à l'aise. Et c'est pour ça que je parle d'échec. Et donc, ils ont créé l'UDI. Et je dis aujourd'hui, puisqu'ils sont en dehors de l'UMP, confortons l'UMP, faisons en sorte qu'elle soit fidèle à sa tradition et à sa vocation. Et en même temps, discutons avec nos partenaires qui sont prêts à constituer avec nous une alliance électorale pour les prochaines élections. Voilà, je crois que ma position est extrêmement claire. Je ne veux pas que l'UMP se résume, si je puis dire, à un parti qui soit totalement centré sur la droite de la droite. Ça n'est pas sa vocation.
Pour quel programme, Alain Juppé, les projets qui ont été élaborés ces derniers mois par l'UMP sont, et de l'aveu même de ceux qui les ont conçus, des programmes très libéraux, en tout cas très orientés vers remise en cause complète des 35 heures, retour de la retraite à 65 ans.
C'est pas du libéralisme, c'est du bon sens.
150 milliards d'euros d'économie.
C'est pas à chaque fois qu'on parle de liberté, il faut pas tout de suite nous dire qu'on est hyper libéraux, etc.
Alors,
je crois que la philosophie de l'UMP, elle est très claire. Elle est très claire. Nous croyons à l'économie de marché, à la libre entreprise. Et il faut donc desserrer les liens qui aujourd'hui empêchent la libre entreprise de donner son potentiel de création d'emplois. Par ailleurs, et je suis gaulliste en disant cela, nous pensons que le modèle social français doit être préservé. Il ne peut pas y avoir d'économie efficace s'il n'y a pas de la cohésion sociale dans notre pays. Et c'est donc la solidarité, mais la solidarité et la responsabilité dans l'ensemble de nos systèmes sociaux. Et puis enfin, nous sommes, en tant que gaullistes aussi, attachés, et je vais prononcer un mot sur lequel je travaille en ce moment, qui est un mot tabou. L'identité. Ben oui, aujourd'hui, les Français, ils ont la trouille de ce que va devenir leur pays. Quelle sera la France que nous allons léguer à nos enfants, à nos petits-enfants? Eh bien, là-dessus, il faut répondre. Il faut répondre que la France a vocation, effectivement, à maintenir sa culture, sa tradition, sa langue, tout en étant un pays d'accueil. Et en respectant sa diversité. C'est un défi très difficile sur lequel il faut que nous travaillions, mais je pense que c'est ça la ligne directrice qui est la nôtre, enfin qui est la mienne en tout cas, et que j'essaierai de faire prévaloir au sein de l'UMP.
L'identité à nouveau, comme Nicolas Sarkozy l'avait
fait,
c'était
l'identité nationale. Ah, vous voyez, tout de suite,
non, parce
tout
que
suite
vous dites,
le mot identité, c'est...
Moi, je vais parler, tout de suite,
je vais parler,
pays d'accueil,
je vais parler, je vais parler d'identité heureuse. D'identité D'accord. heureuse. Ah. Parce que l'identité, c'est De Gaulle aussi. Relisez le début des mémoires de guerre du général De Gaulle, des mémoires d'espoir.
A contrario,
vous verrez comment il parle de la France.
Vous avez lu, vous citez Nicolas Sarkozy, vous êtes récrié immédiatement.
Je ne suis pas du tout récrié, parce que je sais bien pourquoi vous me le citez. C'est pour parler de la dérive du sarkozisme.
Bon, bah, j'ai lui soutenu, parle de l'identité j'ai malheureuse.
J'ai juste parlé de Nicolas Sarkozy, pas de dérive.
C'est pas lui qui parle de l'identité malheureuse, c'est M. Finkielkraut.
Oui, mais qu'il cite très souvent.
Et moi, je veux parler de l'identité heureuse.
Vous voulez vous en différencier sans l'assumer, c'est ça qui est bizarre.
Je l'assume totalement. Moi, j'étais dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy.
Non, donc sans assumer que vous différenciez Nicolas Sarkozy.
Bien sûr que j'ai des différences avec Nicolas Sarkozy. Tout le monde le sait bien. Hein, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, avant d'aller au gouvernement, j'ai mûrement réfléchi. Mais j'y étais. Et moi, je ne suis pas de ceux qui crachent dans la soupe.
Vous parlez encore.
J'étais membre du gouvernement de Nicolas Sarkozy. Et donc, je ne vais pas expliquer que tout ce qu'il a fait entre 2007
et 2012
est mauvais.
C'est parce que vous avez été membre que vous n'allez pas expliquer ça.
Pas du tout. C'est pas parce que. Pourquoi est-ce que j'ai été membre?
Faire un effort de clarté, parce que.
Non, pas du tout. Si j'ai été membre, c'est parce que j'adhérais à une politique. Alors, il ne faut pas me raconter l'histoire, ce n'était pas par opportunisme. Si ça avait été par opportunisme, je me serais précipité au gouvernement.
Vous parlez encore avec Nicolas Sarkozy?
Mais pourquoi je ne me parlerai pas avec
Nicolas
Sarkozy?
Je ne sais pas, je vous pose la question.
C'est curieux que vous posiez la question. Il est membre à part entière de notre formation politique, il a été président de la République, j'ai beaucoup de points communs avec lui, j'ai un certain nombre de différences avec lui, je les assume, il les sait bien. Donc tout ceci se passe dans la plus grande sérénité, et je n'ai pas du tout l'intention de m'engager dans une campagne anti-sarkoziste.
Merci Alain Juppé d'être venu ce matin au micro de France Inter. Restez avec nous dans un instant, Nicole Ferroni va vous parler.
Question de bon sens avec le Crédit Agricole.
Je faisais du vélo sur une route de campagne et là, fracture de l'os et ligament arraché. Donc heureusement, ma mère était là pour tous les gestes du quotidien parce que je ne pouvais pas du tout me déplacer et j'étais immobilisée pendant 2 mois.
Avec la garantie des accidents de la vie du Crédit Agricole, vous pouvez bénéficier d'une aide à domicile dès le 2e jour d'immobilisation et en cas d'accident garanti, d'une indemnisation jusqu'à 2 millions d'euros. Crédit Agricole, le bon sens a de l'avenir. Conditions et événements garantis indiqués au contrat, assurés par Pacifica, entreprise régie par le Code des assurances.
Il est presque 9h. Vous venez enfin de sortir des embouteillages. Jamais vous ne serez à l'heure pour votre rendez-vous. Vous vous dites que ce grand boulevard ne devrait pas être limité à 50, qu'on peut très bien y rouler à 70. Ce que vous oubliez, c'est qu'à cette vitesse, vous ne pourrez pas éviter cet ado qui va surgir, le nez dans son portable, et que la violence du choc sera multipliée par 2. À cause de cet oubli, cet adolescent ne pourra plus jamais manger tout seul.
On ne regrette de rouler trop vite que lorsqu'il est trop tard. Sécurité routière, tous responsables.
En ce moment, ma vie change pas mal. Je viens d'être papa. Du coup, avec mon ami, on a acheté une maison plus grande. Et comme on n'est ni marié ni paxé, je me suis dit, et s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe par rapport à la maison? C'est tout bête, mais ça me rassurerait de savoir qu'en cas de pépin, tout ira bien pour elle. Et pour lui aussi.
Pendant les mercredis du droit familial Maïf, venez poser vos questions à un expert indépendant chaque mercredi de juin dans les délégations Maïf. Plus d'infos sur maïf.fr. Maïf, assureur militant.
Il est 9h03.
France Inter. Le 7-9.
Bonjour Nicole Ferroni.
Bonjour Monsieur Cohen. Dites-moi, est-ce que Monsieur Juppé est avec vous?
Oui, vous êtes à Lyon et Monsieur Juppé, il est toujours là avec nous à Paris.
Très bien.
Et je vous écoute.
Ah, mais merci bien Monsieur Juppé. Bah écoutez, merci beaucoup d'être resté, puis pardon de ne pas être là ce matin. C'est vrai que je suis un petit peu confuse parce que je pense que votre statut voilà, d'ancien Premier ministre aurait quand même mérité que le chroniqueur soit sur place.
Ah, j'aurais été heureux de vous voir, mais c'est sûr.
Oh, bah, bien sûr, surtout que j'ai un physique quand même relativement peu ingrat. Voilà. Mais non, et c'est surtout dommage parce que d'habitude, on reçoit beaucoup d'invités, vous savez, qui sont un peu bas dans les sondages. Alors c'est vrai que là, pour une fois, c'est vous qui m'auriez un petit peu tiré vers le haut. Surtout que je pense que l'opinion positive que les gens ont de vous aurait peut-être influencé de manière très positive. Du coup, l'image qu'ils ont de moi, vous voyez, peut-être ça aurait pu influencer très positivement ma carrière. Surtout que moi, là-bas, je voulais me lancer dans la chanson. Mais c'est vrai que Nicole Ferroni, c'est peu vendeur. Donc, je me disais, celle qui a croisé Juppé, vous voyez, ou une chanteuse pas fictive, ça pouvait peut-être donner un petit peu de cachet. Ou alors, peut-être juste même un single comme Juppé, redu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Voilà, vous voyez, je pensais que ça aurait pu marcher. Mais bon,
en tout cas, on
ne
pourra
dire.
Pas faire un duo parce que je chante très faux.
Oh, mais c'est pas grave, moi aussi. Enfin bon, toujours est-il que ça sert à rien de dire on aurait pu, on aurait dû, hein, il fallait le faire en temps et en heure. Et s'il y a bien une chose que du coup je vais faire en temps et en heure, c'est de vous parler du colis que je vous ai laissé. Alors, j'ai laissé à Patrick, voilà, pour vous, une grosse enveloppe. Hein. Alors voilà, vous pouvez le constater lorsque vous ouvrirez cette enveloppe, elle contient 36 blagues carambars avec une petite notice d'instruction. Alors en fait, ce ne sont pas les blagues, mais les copies des blagues, parce que celles que je vous avais envoyées initialement sont restées coincées à la plateforme postale de Briard. Ça, vous savez, c'est l'humour, hein. Des fois, ça circule pas toujours très librement. Alors, vous allez me dire, mais Nicole, pourquoi ce cadeau étrange? Enfin, vous n'êtes pas obligé de me le dire, mais c'est une formule rhétorique. Bref, toujours est-il que, en fait, la semaine dernière, vous savez, quand j'ai demandé à votre sujet comment vous étiez, quelqu'un m'a dit, ah ben, tu verras, il n'a pas une once d'humour. Alors moi, bien sûr, ça m'a choqué, pas que vous ayez une once d'humour ou pas, mais le fait que les gens ne se rendent pas compte, Monsieur Juppé, parce qu'une once d'humour, c'est énorme. Une once, c'est 28 grammes. Or, 28 grammes d'humour en permanence dans le corps, aucun corps humain n'est censé le supporter. On sait quand même que notre corps, c'est 6 litres de sang. Si vous mettez 28 grammes d'humour dans 6 litres de sang, ça fait un taux de 4,5 grammes par litre. Alors déjà qu'on voit qu'on ne nous laisse pas conduire à 0,5 grammes d'alcool, on imagine bien que 5 grammes de blague, hein, ça serait n'importe quoi. Vous seriez là, bonjour, je suis Alain Juppé, le maire de Bordeaux. Oh, Bordeaux, hein. Vous diriez, et Raffarin, tu sais comment on appelle les habitants de Bordeaux? Non, pas les Bordelais, les Bordéliques. Et voyez, puis dans cet état, bah, personne ne vous laisserait prendre le volant. Et quand bien même, il ne s'agit que du volant de l'UMP. Parce qu'en fait, l'UMP, si on réfléchit bien, c'est un petit peu comme la France. C'est-à-dire, c'est comme une voiture. Ok, il faut qu'elle avance vite, mais prudemment. Donc, veillez à n'être ni à contresens, ni dans une impasse, tout en surveillant la jauge, hein, pour pas finir à sec. Et ça, bien sûr, ça demande un petit peu de fluidité dans la conduite. Et ça, c'est d'autant plus difficile, bah, quand il y a trois paires de mains sur le volant. Alors, celle de messieurs Raffarin, de messieurs Fillon, puis les vôtres, hein, ça fait un tiers de volant chacun. Or, c'est vrai que, autant l'idée de partager en deux, c'est quand même positif, hein, quand on dit demi, moitié, je vous présente ma moitié, Roger sert-moi un demi. Vous voyez, c'est festif. Autant l'idée de partager en trois, bah, c'est plus âpre. Hein. C'est un tiers, hein, le tiers état, le tiers monde. Celui qui est tiers, on sent que c'est celui quand même qui est moins bien logé. Donc écoutez, moi, ce que je vous conseille, monsieur Juppé, c'est que devant la défiance, hein, que certains ont pour un petit peu votre trio viril de l'UMP, eh ben, mettez à profit ce stock de blagues que je vous ai fourni. Partagez-les avec François Fillon, avec monsieur Raffarin. Et ça va fluidifier vos échanges, alléger les débats et permettre, voyez, de faire glisser un petit peu les accrochages sur un flot de blagues, un peu comme l'écume sur la vague. Voilà, n'ayez pas peur de devenir drôle. D'être funky, d'être un petit rigolo, un sacré déconneur. Ouvrez les vannes de la vanne, car l'humour, hein, c'est comme les pieds, on avance mieux quand on en a.
Nicole Ferroni depuis le bureau de Radio France à Lyon, et Alain Juppé pendant votre chronique a découvert, a examiné les blagues carambars que vous lui aviez adressées.
Avant très,
de vous écouter, je n'avais pas une once d'humour, maintenant j'en ai une tonne.
Merci.
Merci Nicole et merci à vous, Alain Juppé, France Inter, il est 9h01.